You're with SBS Radio.
Et grand titre de ce dimanche, les fermiers en Australie vont recevoir de l'aide financière du gouvernement fédéral en cette période de sécheresse. Le président vénézuélien échappe à un attentat. Et puis en sport, en Formule 1, l'Australien Daniel Ricciardo signe avec Renault pour 2 ans. En Australie, les fermiers luttent contre l'une des pires sécheresses jamais observées et vont bénéficier d'une aide supplémentaire du gouvernement fédéral. Le gouvernement de Turnbull a annoncé une aide supplémentaire de 190 millions de dollars aux 576 millions de dollars déjà annoncés, et des centaines de millions de dollars d'aide supplémentaire vont être annoncées au cours des prochaines semaines. On écoute le Premier ministre Malcolm Turnbull.
We've listened, we've heard, we've acted, and we will continue to do that. This is not set and forget. This drought is evolving. It is a constant, dynamic environment which farmers have to cope with. And what we are saying to farmers is we are listening, we are with you, we feel the challenges you have, and we are determined to keep supporting you.
Le Premier ministre Malcolm Turnbull. Le gouvernement versera également plus de 17 millions de dollars au financement de la santé mentale et aux conseillers financiers dans les régions rurales. On écoute le vice-premier ministre Michael McCormack.
We live in a country where farmers have built this country. They are indeed the backbone of this country, and we need and we are there when they're doing it tough. When farmers do it well, the whole nation benefits. When farmers do it tough as they are now, the whole nation suffers. And we as a government are right there by their side, right behind them and supporting them all the way.
Le vice-premier ministre Michael McCormack, le président de la National Farmers Federation, Tony Marr, parle de situation tragique pour quelques fermiers dans certaines régions du pays. Il remercie le gouvernement pour l'appui financier.
They'll be welcoming, I think. Right across Australia, there's a whole range of different farm businesses but the payments for, you know, $12,000 for eligible households will be some immediate support and will really help with cash flow through the business if people are looking to feed stock or actually, you know, make sure they can maintain their own family requirements.
Voilà, c'était le président de la National Farmers Federation en Australie. Le leader aborigène du Cape York, Noel Pearson, a déclaré que les peuples autochtones ne cesseraient jamais de se battre pour une voix parlementaire alors que cette question continue d'être débattue au festival Garma à Arnhem Land en ce moment. Noel Pearson déclare qu'il n'a aucun doute que les Australiens soutiendraient une voix autochtone au Parlement si les politiciens, je cite, permettraient de poser cette question. Le ministre fédéral des Affaires autochtones, Nigel Scullion, a déclaré qu'il était d'accord avec l'idée d'une voix au Parlement, mais il admet que c'est une question qui doit être bien réfléchie.
Well, we haven't said we're not taking this issue to a referendum. We've said if we put a voice to Parliament, 3 words, to the Australian people, it will fail. And it's irresponsible. I mean, you'd be flogging us to death if we did anything like that. And the Australian people know that we are a responsible and considered government.
Voilà, c'était le ministre fédéral des Affaires autochtones. Le Labour ne se prononce pas sur le sort de la députée travailliste Emma Hussard, qui fait l'objet d'une enquête pour des allégations concernant son traitement du personnel et l'utilisation inappropriée des fonds des contribuables. Le Labour attend les détails d'une enquête menée sur le harcèlement dans le bureau de Madame Hussard, des allégations qui ont été publiées par BuzzFeed News jeudi dernier. Tony Burke, en charge des affaires de l'opposition à la Chambre des représentants, a soutenu son collègue en attendant le rapport de l'enquête lors d'une interview sur le programme Insiders de l'ABC ce matin.
Emma Hussard has been a good local member, a passionate member of the federal parliament, but
and the staff members, I don't know all of them, but a number of them I know are good professional people. How it all turns out, I just don't know the answer.
In the event of a damning report, is it possible for Emma Husso's to be disendorsed but sit in the Parliament right through until the next election?
We will deal with the report when we have a report, and at the moment we don't.
Voilà le travailliste Tony Buck sur l'ABC ce matin. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a échappé de près d'une tentative d'assassinat à l'explosif. C'était lors d'une cérémonie militaire à Caracas, la capitale. Selon le ministère de l'Information, le président est sain et sauf, mais 7 soldats de la garde présidentielle sont blessés. On écoute Jorge Rodriguez, ministre de l'Information du Venezuela.
À exactement 17h41, des détonations ont été entendues. Les premiers éléments de l'enquête ont permis de déterminer qu'elles provenaient d'engins volants de type drone, plusieurs engins volants qui contenaient une charge explosive déclenchée à proximité de certains endroits où se tenait le défilé. Nos effectifs de la garde nationale bolivarienne sont restés en place et tout le travail effectué par la suite nous a permis d'établir, d'ores et déjà, qu'il s'agissait d'une attaque contre la personne du président constitutionnel de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro. Heureusement, pour le bien de tous, il en est sorti totalement indemne et fait actuellement son travail habituel en réunion permanente avec le haut commandement politique, avec les ministres, et avec le haut commandement militaire de la République bolivarienne du Venezuela. Malheureusement, ces détonations ont occasionné des blessures chez 7 soldats.
Voilà, c'était le ministre de l'Information du Venezuela. Au Brésil maintenant, avec Lula désigné candidat par son parti pour la présidentielle d'octobre prochain, son mouvement, le Parti des Travailleurs, le soutient. Lula, je rappelle, a 72 ans, il est en prison depuis le mois d'avril pour une affaire de corruption et c'est le plus populaire des hommes politiques au Brésil, comme l'explique Vincent Souriot pour Radio France Internationale.
Inoxydable Lula, il a 72 ans, il dort en prison depuis le mois d'avril, englué dans une affaire de corruption, et pourtant c'est le plus populaire des hommes politiques brésiliens. Personne n'a oublié ses deux mandats, l'âge d'or des années 2000, quand le Brésil tournait à 4% de croissance économique, et que le président Lula gagnait le titre de président des pauvres. Aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, oui, le Parti des Travailleurs l'a désigné candidat, mais que va dire la justice? Il a fait appel de sa condamnation pour corruption, ça ne veut pas dire qu'il sera blanchi. Si ce n'est pas Lula, il va falloir que son parti fasse émerger une personnalité, un homme ou une femme, capable de surfer sur la vague des sondages qui donne le Parti des Travailleurs en tête à tous les coups. On en saura plus dans quelques jours, quand sera dévoilé le nom de son colistier. Jusqu'ici, rien n'a filtré et le scrutin présidentiel au Brésil, prévu en octobre, semble plus ouvert que jamais.
Voilà, Vincent Souriot pour RFI. En France, plus de 60 départements restent en vigilance orange ce dimanche 5 août. Les températures restent largement au-dessus des normales. Des précautions à prendre. Écoutez Juliette Buzyn, qui est la ministre de la Santé.
En tous les cas, vigilante à ce que les messages soient bien entendus par les populations. Il y a beaucoup d'enfants dans les voitures. Il va faire extrêmement chaud dans la région du Rhône. Et donc mon message, c'est arrêtez-vous, mettez-vous à l'ombre régulièrement. Rafraîchissez les enfants avec des brumisateurs. Faites-les boire. Évitez le soleil. Enfin, voilà, des messages qui paraissent simples, mais qu'il va falloir réellement appliquer parce que tout le monde est en danger en période de forte chaleur dans une voiture, dans un embouteillage. Donc, il ne faut pas hésiter à s'arrêter, à changer ses horaires.
La ministre française de la Santé. Et puis, cette question, pourquoi fait-il plus chaud dans les villes? Tentative de réponse avec William de Lesseux pour RFI.
Entre Paris et sa lointaine banlieue, il y a le boulevard périphérique, la petite couronne de moins en moins d'immeubles et parfois 8 degrés de différence. C'est un microclimat à l'intérieur de la ville qui commence la nuit pour deux raisons. Déjà, le tissu urbain est plus dense. En clair, l'air circule plus difficilement dans des rues que dans des espaces plus ouverts. Les artères des centres-villes gardent donc plus longtemps la chaleur. La deuxième cause de cette inertie tient aux matériaux utilisés en construction et pour la voirie. Pendant la journée, le bitume et le le béton se comportent comme des accumulateurs de chaleur, une chaleur restituée pendant la nuit. Sans compter les activités humaines, un climatiseur peut relâcher de l'air chauffé à 31 degrés. Les urbanistes tentent de trouver des solutions. Utiliser des matériaux de couleur blanche permet de réduire le phénomène d'accumulation. Plus efficace, végétaliser certaines surfaces comme des toitures d'immeubles peut aider à créer de la fraîcheur dans la ville. Pour atteindre des effets à long terme, Météo France préconise de végétaliser au moins 40% du territoire des villes françaises.
Voilà, c'était William de Lesseux. En Syrie, des raids de l'aviation russe contre le groupe Daesh au nord-est de la province de Soueïda. Une vaste offensive terrestre de l'armée syrienne contre ce bastion djihadiste se prépare, comme l'explique Paul Halifé pour RFI.
Selon des sources militaires syriennes, l'aviation russe a lancé ce samedi une puissante campagne de raids aériens contre des positions du groupe État islamique dans la région désertique au nord-est de la province de Soueïda, dans le sud de la Syrie. Les chasseurs bombardiers russes ont massivement pilonné le canyon stratégique de Safa, d'où sont partis les combattants qui ont lancé le 25 juillet des attaques meurtrières qui ont fait plus de 250 morts à Soueïda. Ces raids visent à préparer le terrain à une offensive de l'armée syrienne contre ce bastion du groupe État islamique qui menace les voies de communication vers les frontières irakiennes à l'est et jordaniennes au sud. Le site Al-Masdar News, généralement bien informé, a indiqué que l'armée syrienne avait mobilisé d'importants renforts en prévision de cette offensive qui intervient après la liquidation cette semaine de la dernière poche djihadiste du bassin du Yarmouk, limitrophe du Golan, dans la province méridionale de Daraa.
Voilà, c'était Paul Halifé pour RFI. Un mot de sport, après 5 ans chez Red Bull, l'Australien Daniel Ricciardo a signé avec Renault pour 2 ans. Il a gagné 7 Grands Prix en 4 saisons et demie chez Red Bull. Nico Hülkenberg sera le coéquipier de l'Australien. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 16 degrés, Adélaïde 15, Melbourne 18, Hobart 16, Canberra 16, Sydney 22, Brisbane 26, Cairns 28, Darwin 31 et à Alice Springs, maximal de 25 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. Les fermiers en Australie vont recevoir de l'aide financière du gouvernement fédéral en cette période de sécheresse. Le président vénézuélien échappe à un attentat. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
sbs.com.au